Alors, qu'en est-il aujourd'hui de la plus vieille ségrégation homme-femme, époque qui porte la cicatrice de l'évaporation du père? Pour pouvoir avancer sur cette question, ce qu'en dit Lacan lors de sa première version de la proposition 1967 autour du troisième point de fuite de cet horizon de la psychanalyse en extension dans lequel il évoque les marchés communs, ne peut que nous éclairer. Si la ségrégation prend son ampleur, qu'elle est ramifiée et renforcée de nos jours, alors on peut penser que cela touche aussi tout type d'entre elles, dont la ségrégation des sexes. Rappelons aussi que Lacan propose à ce moment le dispositif de la passe, 3 ans après la traversée de son excommunication en 1964. Dispositif Paris même pour se démarquer de l'arachnéenne IPA. D'ailleurs, il commence en évoquant ce qui traite de structures assurées dans la psychanalyse et comment en garantir l'effectuation chez le psychanalyste. Du côté de la psychanalyse en extension, problématique abordée en fin de texte, rappelons donc l'horizon et les 3 points de fuite. Le premier, le mythe oedipien. Le second concerne le point de l'unité de la société de psychanalyse coiffée par un exécutif international souhaité par Freud. Puis le troisième, enfin, est réel. Le trop réel camp de concentration, une des conséquences du remaniement des groupements sociaux par la science. Petit rappel, c'est là que le terme de ségrégation est introduit. 20 ans auparavant, il l'avait proposé, intitulé « Occurrence aux lois de la ségrégation urinaire ». On peut penser que c'est de l'ordre du clin d'œil. C'est vrai que je trouvais ça assez drôle, « ségrégation urinaire ». Je me suis dit « tiens, je vais aller voir un peu plus près ce que c'est que ce truc ». Mais c'est à prendre au sérieux. J'entendais Colette Solaire dire de son mari quand on est intervenu, c'était même fondateur. Car en effet, cela pose le questionnement de l'ordre signifiant avec l'image bien connue des portes jumelles. La structure signifiante institue une pure différence homme et femme en introduisant des places distinctes, parfaitement symbolisées par ce double isoloir et qu'il illustre avec ce souvenir d'enfance, je le reprends parce que j'aime beaucoup, où un frère et une sœur sont assis l'un en face de l'autre dans un compartiment de train et voient par la vitre les bâtiments du quai. « Tiens, dit le frère, on est à dame. Imbécile, répond la sœur, tu ne vois pas qu'on est à homme. » Alors que je pense à l'écriture de ce texte, une petite fille m'en souffle le titre. Lors d'une de ces séances, petite fille dont brillante, qui joue du théâtre, de la musique, cela adoucirait les mœurs, lance « Les garçons sont tous des cons. » Je suis étonnée, car cela ne sort de nulle part. Je questionne tous. Elle réfléchit. Non, il y en a un que j'aime bien quand maman l'invite à la maison. Mais dès qu'il arrive à la récréation, qu'il est avec ses copains, il devient méchant. Je lui dis, ah, le clan. Elle me regarde. Ça fait un petit arrêt. La récréation. Terme peu éloigné de celui de ségrégation dans sa sonorité. Espace, petit microcosme, dans lequel les ségrégations fleurissent et où la différence des uns accentue le trait lumière, l'esprit grégaire des autres. Ce temps de recréation, où l'on crée de nouveau, en l'occurrence des jeux qui amènent la question de comment on traite le symbolique, mais aussi dans lequel la jouissance des corps entre les petits sujets bat son plein. Vous passez parfois, j'imagine, à côté du cours de récré. On entend un cri. Il est censé être temps de délassement, de distraction. Le dictionnaire, dans sa définition, nous dit que c'est un moment de divertissement, mais aussi de liberté. Que fait-on de cette liberté? Liberté des corps, comment chacun y trouve sa place? Si la loi de la ségrégation urinaire pose les choses, traite des jouissances du corps, ce temps de récréation est un espace qui ravive la question de la ségrégation des sexes de façon parfois féroce et intraitable. Pour poursuivre sur ces temps et ce qu'ils procurent ou encore font émerger, voici une autre réflexion d'une maman qui avance. Bon, ça, c'est pas au travail. Mon fils, celui-ci, il est en maternelle, à la récréation, il crie. Il court, il crie. Comment savez-vous? Elle me dit, je le vois par la fenêtre. Bon, ces espaces, parfois aussi, ne favorisent pas la tranquillité des petits-uns et au contraire peuvent procurer excitation, envahissement. Dans la cité, il y a ces résidences, celles-ci m'énervent, l'étranglement du nom encore, qui ont été bâties et pensées de façon à ce que les immeubles encerclent l'école, ou plutôt la récréation, l'école se situant derrière celle-ci, vue plongeante sur les bambins. On se demande ce que les architectes et les sociétés immobilières ont en tête lorsqu'ils ont pensé cet habitat, voire encore les tours Aillot ou dites nuages au quartier Pablo Picasso de Nanterre, où les appartements sont construits en cercle et non pas en pièces carrées. Certes, dans les années 70, c'était pour le coup très émouvant, délicieux, mais aujourd'hui ça tourne en rond. Et dans la cité aussi, c'est une espèce de grand serpent. Bon, c'était peut-être intéressant au début, mais là. Bon, et puis aussi, ce qu'on entend des jeunes filles, qui est le cas, c'est que pour être tranquilles, elles font un peu. Elles sont des garçons comme les autres. Donc dans leurs vêtements, dans leur tenue, dans leur langage, pour qu'on les laisse tranquilles et qu'on leur fiche la paix. Alors, ça m'a fait penser au texte d'Heidegger, Bâtir, habiter, penser, qui renvoie que veut dire maintenant bâtir. Donc ce mot du vieux haut allemand pour bâtir, Bauen, signifie habiter, ce qui veut dire demeurer, séjourner. Nous avons perdu la signification propre du verbe Bauen, bâtir, à savoir habiter. Le vieux mot Bauen ne nous apprend pas seulement que Bauen est proprement habité, mais en même temps il nous laisse entendre comment nous devons penser cette habitation qui désigne. Sur la fin de ce texte, il rappelle comment les mortels, les êtres pourraient répondre à cet appel autrement qu'en essayant pour leur part de conduire d'eux-mêmes l'habitation à la plénitude de leur être. Nous poursuivrons ce cheminement avec ce que me dit un adolescent, pour le coup un jeune homme. À la récréation, je suis tout seul. Il reste tout seul tout du long. Lorsqu'il doit tenter de s'approcher d'un groupe de filles, pour le coup, avec lesquelles il doit composer une chanson pour le cours de musique, il doit inventer quelque chose avec les filles, il vient me voir, on me dit bof. De toute façon, elle ne parle jamais. Elle ne veut pas parler avec moi. Parcours de ce jeune homme bien particulier qui a des difficultés importantes à parler. Il est comme emmuraillé dans sa muraille de Chine. D'origine chinoise, il a eu un parcours petit enfant en hôpital de jour. Des marques restent. Il était mutique. Aujourd'hui, il n'est plus, mais il ne trouve ni les cordes, ni les codes pour parler aux filles. Avec les garçons, c'est plus facile. Il participe avec eux à des tournois de ping-pong où il excelle. Ici, la ségrégation de structures, pour nous dire, croise l'autre, celle des sexes, qui montre un impossible à faire avec la différence, qui nous rappelle qu'il n'y a pas de rapport sexuel et que l'autre est d'une autre race, de manière bien plus vive pour lui, car aux prises avec sa difficulté d'un lien social, aussi à mettre en œuvre, mais aussi avec un processus de symbolisation en rate. Car l'enfant, nous rappelle Lacan dans son séminaire Les Noms du Père, est fait pour apprendre quelque chose, que le nœud se fasse bien. Car il n'y a rien de plus facile que ce qui rate. Pour notre jeune homme, il y a encore un parcours à faire. Mais des connexions autour de ces deux thématiques, celle du nouage et de la ségrégation, seraient peut-être des sexes, seraient peut-être à penser. En effet, comment faire avec, pour chaque être singulier, car n'est-il pas question de jouissance à cerner, traiter, qui entre en jeu à travers le lien social qui unit les petits-uns et les plus grands? Donc ces trois scénettes pour illustrer la question des jouissances de corps, des différences de corps, qui sont à juguler, voire à ségréguer, de la pulsion, regard entre autres, mais aussi du lien social en fonction notamment dans ces espaces plus ou moins privés. À propos de jouissance singulière, le dernier ouvrage de Gérard Pommier reprend fréquemment l'hypothèse suivante, qui nous intéressera ce soir aussi. Le féminin, sa jouissance singulière, serait convoitée depuis la nuit des temps par le masculin. Mais aussi de par cette attirance réprimée, cette répression, cette répression prendrait son origine dans le désir du masculin pour le féminin. Ce désir provoquerait un émoi si envahissant que pour s'en protéger, l'homme redoublerait de rejet, le masculin, face à ce féminin, par crainte aussi d'être féminisé, châtré. Le féminin a toujours été accompagné de répression, exclusion, et pourtant, la femme écrit l'histoire en secret. Mais quand l'homme écrit l'histoire, la femme y est absente. Sur le plan littéraire, on peut voir poétique. Elle est d'autant plus magnifiée lorsqu'elle est morte, évanescente, inatteignable. Et du côté de la religion, plus l'amour de Dieu est exigeant, plus le féminin est réprimé. Comme la Vierge. Comme j'ai fait une note de lecture de Gérard Pommier, de son bouquin Féminin, Révolution sans fin. Nicolas Benneret avait pensé que c'était bien que je parle. Donc j'ai ce petit passage, c'est des choses qu'on trouve.
C'était pour faire la différence entre ce que lui disait Pommier et ce que vous vous disiez. C'est pour ça, c'était ça mon problème.
Non, mais là j'ai repris la note de lecture que j'avais faite. Donc c'est moi qui dis, mais à travers lui.
D'accord.
Donc on peut dire, j'ai pris des idées qu'il avait, que moi j'ai extraites, mais qui sont de son livre, parce que je les dis parce que je les trouve justes.
D'accord.
Bon. Là c'est encore un peu lui. Hein. Après c'est mal. Je vous dirai. À la fois, certaines périodes de révolution, ça je suis tout à fait d'accord, commune, révolution française, nous manque comme celle-ci est souvent en première ligne, la femme. Graine révolutionnaire, étincelle que porterait la femme, probablement parce qu'elle n'a pas à tenir un ordre établi à la différence de l'homme, qui de par sa fonction maintient l'ordre. Nous pouvons poser que la position de la femme, pas toute, ne peut que nous éclairer face à cette étincelle révolutionnaire qu'elle porterait. Ça, c'était une idée qui m'était venue. Dans les formules de la sexuation, l'homme est tout entier soumis à la fonction phallique. Ça, c'est Colette Solaire. Je vais tout vous dire. Il y a une phrase comme ça. Et femme, au contraire, celle qui n'est pas tout entière soumise au régime de la fonction phallique. Et ça, c'est le schéma de la sexuation. C'est Lacan. Et à qui échoit une jouissance autre. Ce qui expliquerait peut-être que la femme, et ça c'est moi, ose, car elle n'aurait rien à perdre. Elle a déjà tout perdu. Et pour avancer vers la conclusion, on ne peut pas oublier qu'il y a le roc de la castration et le point qui concerne l'impossible du rapport sexuel et de ses ratés. Que Lacan commence à développer plus précisément dès 1970, en nous rappelant que l'identification sexuelle ne consiste pas à se croire homme ou femme, mais à tenir compte qu'il y ait des hommes pour la fille. Pour les hommes, la fille c'est le phallus, et c'est ça qui l'échappe. Et pour les femmes, le garçon c'est la même chose, le phallus, c'est ça qui l'échappe aussi, d'où les ratés.